La violence a mille visages ici et parfois des visages un peu sournois. Il y a les visages qui sont connus, hein, ce sont ceux qui sont séquestrés essentiellement par la guérilla. Mais il y a bien d'autres formes de violence. Comme l'État, pendant longtemps, a été très peu présent, beaucoup de régions, de villes, de quartiers se sont organisés autour de paramilitaires, hein, c'est-à-dire qui proposaient une certaine protection, mais qui en même temps exigeaient de l'argent pour cette protection qu'ils offraient, et qui de plus en plus sont hors la loi maintenant. Depuis le président Uribe, on peut dire que l'État est de nouveau bien présent dans toutes les parties, mais tous ces groupes qui se sont constitués, qui peut-être à un moment ont eu une certaine raison d'être, bien maintenant n'ont plus de raison d'être, mais veulent continuer. Et très souvent, ces groupes-là s'appuient sur des jeunes désœuvrés qui souvent ont arrêté leurs études à 11-12 ans. Dans le meilleur des cas, ils ont fait leur service militaire et ce sont eux qui font la loi dans les quartiers des grandes villes. Ce sont des petites mafias qui gouvernent un quartier. Et souvent, les gens du quartier à la fois en souffrent parce qu'ils doivent payer une abakouna, un vaccin, c'est-à-dire qu'on doit payer comme une amende, une participation, une cotisation. Mais en même temps, les mêmes gens du quartier font appel à ces jeunes dès qu'il y a un problème de voisinage, dès qu'il y a un problème sentimental même. Hein, si je vois qu'il y a quelqu'un qui tourne autour de ma fiancée, je vais appeler ces jeunes-là qui vont régler le problème à leur façon, d'une façon qui n'est jamais très propre.
Alors, tout à l'heure, vous disiez que les auteurs de ces violences sont les FARC, mais aussi des micro-mafias, en fait. Est-ce que vous avez pu constater aussi le rôle des narcotrafiquants ?
Alors, c'est vrai que pour les Occidentaux, on pense déjà et avant tout aux narcotrafiquants. En réalité, la drogue n'est qu'un des aspects de ces mafias-là. Il y a toute la prostitution. Très souvent, il y a un certain nombre de services publics même qui dépendent d'eux. Par exemple, les paraboles, souvent sont eux qui gouvernent ces affaires-là. On a vu dans mon quartier, depuis quelques jours, c'est tout nouveau, tout récent, on voit des policiers, donc des représentants de l'État qui sont là au milieu de nous, ce qui ne s'était jamais vu. Et donc pour moi, ça me semble un bon signe que petit à petit, l'État est en train aussi de reprendre du terrain, si j'ose dire, dans nos quartiers.
Et de son côté, comment l'Église parvient-elle à intervenir ?
Je crois que les évêques, très souvent, sont reconnus, ont des interlocuteurs politiques. Hein, il leur arrive dans certains quartiers de convoquer tel ou tel chef en disant « Non, là, vous dépassez toutes les limites, ce n'est plus possible. » Alors ensuite, à un niveau plus local, bien, je connais quelques curés qui ont un peu des fortes personnalités, qui réussissent à faire rencontrer des bandes rivales. Parce que le plus terrible, quand il y a une seule bande qui domine, c'est triste, mais il n'y a pas trop de morts, hein, parfois un règlement de compte. Mais par contre, quand il y a deux bandes rivales qui s'affrontent pour posséder le même territoire, alors là, il y a des tirs en permanence et des gens innocents qui passent d'un territoire à l'autre et qui se font descendre, des gamins embarqués dans ces mafias-là qui se font descendre très très jeunes. Donc voilà, il y a tout cet enjeu-là qui existe. Ensuite, il y a tout un travail social parce que, évidemment, cette violence se répercute dans les familles. Parfois, il y a des familles qui ne se parlent plus sans qu'on sache pourquoi depuis des années et des années. Une bonne moitié de mon travail, c'est visiter des familles pour savoir qui va pouvoir recevoir un mercado, un marché, c'est-à-dire un panier qui, toutes les semaines ou tous les mois, va pouvoir aider un peu. Il y a des formations, il y a des ateliers. Alors, par exemple, la paroisse propose un atelier de manicure et pédicure. Alors, en France, ça nous ferait éclater de rire. On ne voit pas quel serait le rôle de l'Église. Mais si ça permet à quelques jeunes filles de ne pas rester chez elles, d'avoir une petite activité, et ensuite, elles vont pouvoir monter un petit négoce. Oh, elles vont pas avoir une boutique immense, mais elles vont faire un peu de manicure, pédicure chez leurs voisins. Elles vont gagner un demi-euro. Mais avec ça, elles vont pouvoir survivre, aider un petit peu la maman ou acheter les couches du bébé. Donc tout ce travail-là, qui est un travail finalement très humble, mais qui lutte indirectement en faveur de la paix.
Donc, si je comprends bien, en fait, l'essentiel de son œuvre porte sur la pacification directe entre les bandes et surtout un gros travail pour aider la famille à continuer à structurer et les jeunes à faire leur propre vie.
Exactement. Et alors, ce qui existe aussi ici, que l'on ne sent pas trop en France, c'est que les paroisses ne sont pas les seules, évidemment. Il y a la mairie, Hein, par exemple, la mairie de Medellín a un rôle très important. Il y a comme des annexes dans les différents quartiers. Il y a des groupes de sport qui font un travail formidable. Et il y a une collaboration qui se fait de façon systématique. Hein. Par exemple, depuis hier, il y a un groupe d'échecs. Il y a beaucoup d'enfants qui jouent aux échecs, qui se retrouvent dans les locaux paroissiaux. Il y a une dame qui vient d'une autre paroisse pour proposer des cours de cuisine, aider un peu les mamans à mieux gérer leur argent quand il s'agit de dépenses culinaires. Alors voilà, ça fait tout un monde. Nous, on est quand même bien habitués à des frontières. Ben, l'Église, c'est pour la dimension spirituelle. Le social, c'est davantage l'État, ou au moins le Secours catholique, mais qui est organisé un peu à part des paroisses. Ici, ça n'existe pas, ces frontières-là. Et ça, je trouve ça assez formidable.
Au-delà de ces questions d'urgence, hein, parce que c'est vrai que quand on parle de pacifier la rue, ou c'est vraiment des questions d'urgence, est-ce que l'Église parvient aussi à intervenir sur des questions plus structurelles, comme par exemple le respect des peuples indigènes, que le pape a aussi évoqué dans son intervention?
Ça paraît un monde complètement à part, le monde indigène. Une fois, j'ai reçu un catéchiste indigène ici à la paroisse, on s'est promené un peu, mais les gens se retournaient sur lui. Il attirait le regard beaucoup plus que moi, le français, parce que jamais, jamais ici, il n'avait vu un indigène. Il ne savait pas ce que c'était. Et quand on va visiter les musées, bon, il y a bien une salle avec 4-5 poteries, mais on ne sent pas un héritage. On ne sent pas du tout la reconnaissance de tout cet héritage-là. Je pense qu'il y a une question d'identité qui mériterait d'être creusée. À la fois, les gens sont très fiers en disant, ben voilà, on a chassé les Européens, mais en même temps, ils ne se reconnaissent absolument pas comme descendants des indigènes. Une autre surprise, hein, du même ordre, hein, il y a beaucoup de Noirs ici qui sont issus de l'esclavage, du commerce triangulaire. Quand j'ai dit à quelques-uns, ben vous savez que vos arrière-arrière-grands-parents venaient d'Afrique, ils étaient très surpris. Ils m'ont dit non, pas du tout, c'est impossible, on a toujours vécu ici. Donc cette dimension un petit peu de connaissance de l'histoire, de respect des cultures, je crois qu'il y aurait un gros travail à faire. Ensuite, d'un point de vue pratique dans les paroisses, une question qui nous semble tellement éloignée que je ne peux pas dire qu'on le vive très fortement, hein, la vérité.